BVFM présente Envie d'entreprendre, votre rendez-vous avec l'économie locale animé par Marie-Cécile Drécourt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Envie d'entreprendre, l'émission qui permet de rencontrer les femmes et les hommes chefs d'entreprise de notre territoire pour qu'ils nous parlent de leur parcours et donnent envie, évidemment, aux jeunes et aux moins jeunes d'entreprendre. Aujourd'hui, j'accueille Cécile Piron-Jordan, fondatrice de Parcours RH. Bonjour Cécile.
Bonjour Marie-Cécile.
Alors avec vous, on va évidemment parler de votre parcours de créatrice d'entreprise, mais également de l'importance de faire le point sur nos compétences quand on crée une entreprise. Expliquez-moi d'abord en quoi consiste Parcours RH.
Alors Parcours RH, le cœur de l'action, c'est vraiment de s'occuper des reconversions professionnelles individuelle en priorité. Alors, les reconversions ou les évolutions. Les évolutions, c'est souvent par le biais de la VAE ou de la VAP 85.
Alors, la VAE, explique ce que... Enfin, dites-nous oui, ce okay. que ça veut dire.
La VAE, c'est quand vous avez travaillé au-delà de vos compétences et qu'il vous faut valider le diplôme parce qu'en plus, vous avez éveillé votre curiosité pour continuer dans cette branche-là. Et du coup, vous avez envie d'avoir le diplôme du dessus. Un exemple court, j'ai une bénéficiaire qui récemment avait fait des ressources humaines. Bim, elle a validé une licence en ressources humaines et elle est rentrée en master.
D'accord, voilà c'est plus clair. Donc, des VAE, donc des validations des acquis...
D'expérience,
voilà. Et après, quelles autres activités vous avez ?
Alors, vraiment, le cœur de l'action, c'est le bilan de compétences.
D'accord.
Le bilan de compétences, évidemment, les gens sont assez demandeurs depuis le Covid. Alors... parce qu'ils ont eu un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt les a fait réfléchir. Et la première réflexion qui est venue, ça a été celle de la bienveillance. C'est une qu'on retrouve très souvent et qu'on retrouve très souvent chez les futurs entrepreneurs. La deuxième, c'est les biorhythmes. Ils ne sont pas respectés. Il y a une injonction venue d'en haut. C'est pas mon rythme à moi et j'ai envie de créer mon rythme, quitte à travailler plus.
Mais c'est vrai que le rythme a été un peu chamboulé avec le Covid, le télétravail, ça a fait évoluer beaucoup de choses en entreprise et donc peut-être que ça a aussi chamboulé les habitudes des salariés.
C'est surtout qu'on a été chez soi et donc ça a permis de réfléchir là-dessus.
Bien sûr. Et alors, comment ça se passe, un bilan de compétences ?
Un bilan de compétences, c'est un parcours, comme l'indique mon entreprise. D'abord, il faut analyser la demande, en fait, voir si c'est pertinent de le faire. Dans la plupart des cas, ça l'est. D'accord ? Donc, on a un rendez-vous, un premier rendez-vous qui n'engage pas, si
vous voulez. Une prise de contact.
Et est-ce que... Bon, c'est un rendez-vous qui dure quand même une heure et demie, hein, pour voir pourquoi la personne se questionne, pourquoi elle en est à la croisée des chemins, et est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut qu'elle fasse. Des fois, ça m'arrive de donner les éléments et de laisser repartir la personne, mais en général, ça a un effet à long terme, sur la connaissance de soi, au moins. Donc, le début du bilan de compétences, ça va être le récit de vie. Et le principe, la base, c'est l'autodétermination. Donc, on va apprendre à mettre de côté là où on a hérité des choses et on les refuse. On va apprendre à voir ce dont on a hérité, qui nous sert bien et qu'on aime faire. Et on va voir là où, par rapport aux générations précédentes, on a créé quelque chose. Est-ce qu'on veut continuer de le faire ou non ? Voilà, donc on remonte en psychogénéalogie. Ça peut paraître impertinent, mais non, pas du tout. Donc, le début du bilan, il est très psy. Okay. En fait. Ensuite, on va sonder, donc il y a de la psychométrie tout le long, et il y a des bases qui sont même des bases légales obligatoires. Donc le premier test de psychométrie va sonder vos intérêts professionnels inconscients. On va parler des intérêts conscients, du contexte familial actuel, pour voir quelles sont les priorités.
Oui, on prend vraiment tout en compte.
C'est la globalité de la personne, c'est vraiment essayer de joindre une réalité personnelle, les nécessités personnelles, au parcours professionnel pour l'adapter au maximum.
Pour se sentir bien dans son métier, donc.
Se sentir bien dans son métier et faire commencer à poser un peu le lit, en fait, d'un parcours qui soit réalisable, pas d'un truc complètement utopique. Parce qu'en sondant les intérêts professionnels, bah oui, moi, j'ai envie d'être mathématicienne. Je suis nulle en maths. Comment on fait ? Donc, ensuite, on va explorer tous les possibles. On va sonder la personnalité professionnelle. Donc, ça, c'est des tests classiques, le MBTI, tout ça. Nous, on travaille, parce que je travaille avec MyCampus également. Donc, on travaille sur...
Notre invité le mois dernier.
Exactement, Laetitia Béal. Donc, on s'entend très bien. On a voulu joindre nos compétences intellectuelles et on est hyper complémentaires. Donc, il n'y a pas eu photo. Donc, on travaille sur les intelligences multiples, qui est une espèce de test WISC. Donc, le WISC, c'est l'ancien QI. C'est là où on va voir les compétences visuo-spatiales, les compétences langagières, etc. Établir un niveau pour voir mais qu'est-ce qui est facile pour la personne et quelles zones du cerveau fonctionnent facilement. Et ensuite, on passe au projet pro, et là, c'est le cœur de métier, conseil en évolution professionnelle. Comment on fait ?
D'accord. Peut-être là, on va peut-être trouver un lien entre vous qui voulez faire des mathématiques, mais qui n'êtes pas bonne en mathématiques. On peut peut-être trouver des métiers. Qui font le lien entre tout ça.
Et, exactement.
Complètement. Et alors, justement, si on parle de vous, vous avez donc créé votre entreprise. Elle existe Parcours RH existe depuis combien de temps ?
Alors, c'est assez récent. Parcours RH existe depuis un an, à peu près un an.
Et quel est votre parcours avant ? Comment ça s'est passé pour arriver jusque-là aujourd'hui ?
Alors, je vais fonctionner de façon entérograde.
Ça marche.
Donc, avant Parcours RH, j'étais auto-entrepreneur. Grosse bêtise. Mais j'étais auto-entrepreneur. Et en fait, j'étais dans la formation. Donc moi, j'ai formé sur des BTS, assistant à direction, des choses comme ça, mais surtout en anglais. Et d'accord. Mes cours, d'ailleurs, en assistant à direction, je les donnais en anglais. Et quand vous êtes, on va dire, formateur, prof d'anglais, vous touchez à tous les corps de métier. Donc ça peut être web designer, web développeur, école hôtelière, j'en passe et des meilleurs, ou des sessions généralistes où vous avez tous les corps de métier possibles et imaginables. Vous faites le recrutement à Pôle emploi ou dans différentes structures. Vous avez 60 candidatures pour arriver à 12 à 16 stagiaires. Pas un seul parcours qui est pareil. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est malheureux à dire, et ce n'est pas du tout une invective envers Pôle emploi, c'est que la plupart des gens qui font une formation imposée entre 30 et 50 ans, ce sont des gens qui n'ont pas choisi leur parcours. Et là, milieu de session, j'étais souvent formatrice référente, je devais faire un état des lieux du projet pro, et des éclats de larmes dans mon bureau la plupart du temps. Et quand le Covid a démarré, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ces éclats de larmes ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je me suis posé la question, tout le monde me dit, mais fais psy. Non, bizarrement, c'est un métier que je garde pour la retraite. Je veux rester dans le monde du travail.
Ça, c'est la prochaine étape.
Voilà, je veux rester dans le monde du travail. Et j'ai envie de garder un sens des réalités. Donc, je me suis dit, mais comment on va joindre la psychologie, ce que je sais super bien faire, parce que j'ai un gros bagage en psychanalyse, cette expérience de formatrice, comment je vais aider ces gens à arrêter de se gourer et comment on va réparer ces gens qui ont pris une filière qui ne leur plaisait pas à cause d'une injonction parentale et qui d'ailleurs ne sont pas plus riches que les autres, parce que j'ai eu des gens au SMIC qui avaient fait HEC, voire à la rue, et des prothésistes ongulaires qui ont des masses avec piscine au pied du ventoux. Ouais. Donc ça, il faut vraiment sortir de certains écueils éducatifs, je crois. Voilà, ouais. Donc c'était l'idée.
Vous êtes parti d'un manque que vous avez trouvé quelque part en vous disant, comment moi je peux répondre à cette question. Ouais. Et donc, alors vous auriez pu aussi décider de rentrer dans une entreprise qui faisait déjà ce travail-là. Pourquoi avoir décidé de créer...
Très bonne question.
Voilà, vous-même, votre entreprise, c'est quand même un sacré challenge aussi, surtout en période de Covid où on peut se dire, c'est peut-être pas le bon moment de prendre ce risque-là.
Donc on en vient à un parcours plus lointain. Donc moi, évidemment, j'ai été salariée et je suis autodidacte. Le truc que n'aiment pas les Français.
Rentrez pas dans les cases.
Pas du tout. Donc j'ai fait plein de métiers. J'ai justement réalisé mon rêve avec les maths. J'ai travaillé sur les marchés financiers. Je ne savais pas comment y rentrer. J'ai fait des études de droit. J'étais super bonne en anglais et bim, je suis rentrée dans la section juridique de marché financier. Donc j'ai réussi. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu sans le diplôme.
D'accord.
Voire j'ai remplacé des gens qui avaient 5 années d'études de plus que moi et je m'en suis très bien sortie. Sauf qu'arrive à un point où vous êtes trop payé et pas de diplôme, et ça, à Paris, ça marche, dans le sud au moins. Donc, je me suis dit, mais je vais vouloir faire ça, mais en fait, personne ne va vouloir de moi. Personne. Ça, c'est une première chose.
Parce que vous ne rentrez pas dans les cases. Donc
voilà.
Ça peut être compliqué.
Donc, et ce que je retrouve chez les entrepreneurs que je côtoie sur les réseaux, c'est qu'on a tous ce profil-là où on a une vraie identité professionnelle. On a envie d'apporter quelque chose de plus, voire on est nettement plus bosseur que la moyenne. Et du coup, bah, y a un moment où c'est une évidence. Voilà.
Donc ça a été une évidence pour vous.
Oui, ça a été une évidence.
Donc pareil, vous parliez du statut de micro-entreprise, auto-entrepreneur, voilà, c'est ça, les deux noms. Vous avez décidé plus d'avoir ce statut-là, vous avez changé de statut. Pareil, le choix de statut, ça a été compliqué ou...
Alors absolument pas. Disons que auto-entrepreneur, au début, ça me semblait le plus simple pour répondre seul à des appels de marché.
De manière administrative, c'est quand même très simple, c'est l'avantage.
Oui,
si on veut débuter...
Après, on prend un comptable, hein. On s'embête plus et on développe justement. Bien sûr. On ne se focalise pas sur l'administratif, on a une capacité de développement qui est énorme. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans l'écueil de « je marche seul ». Non, pas du tout. Non, on n'est pas seul quand on est entrepreneur, c'est un facteur d'échec énorme. Donc l'auto-entreprise, enfin moi, j'ai énormément de gens qui partent, qui créent leurs entreprises à l'issue d'un bilan. Et là, il faut accompagner. Et dans ce cas-là, je mets une grosse alerte rouge, ça précarise. Il y a de très belles choses qui sont en train d'être faites pour les entrepreneurs, mais elles ne sont pas en vigueur pour le moment. Donc demain, vous entreprenez, vous êtes tranquille pendant un an. Et après, ça commence la galère.
Donc, les charges.
Alors, ce n'est pas que les charges, en fait. Vous perdez tous vos minima sociaux, tous vos droits sociaux. Il n'y a plus rien. Donc, vous n'avez pas de marché, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous vendez tout dans la maison. Et j'en ai connu plus d'un à qui c'est arrivé. Et je le dis, moi notamment. Donc, là, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas quelque chose que je recommande, surtout dans les chefs de famille. Mais même, il n'y a pas de raison de précariser un jeune plus qu'un autre. Tandis que vous avez plus de sécurité sur d'autres statuts. Après, le choix du statut, bah, la SAS, bah, d'emblée, j'ai délégué. Faut pas...
Donc vous n'êtes pas toute seule, en fait ?
Non, je ne suis pas toute seule. Je me suis associée il y a 6 mois. Dès le départ, j'ai eu mon comptable. Je me suis entourée d'amis de longue date en qui j'avais réellement confiance. C'est des
important.
Amitiés éprouvées depuis longtemps. Donc ma société a été créée par mon meilleur ami.
D'accord.
Mais j'aurais pu prendre un comptable lambda. Mais bon, là, il y avait un rapport de confiance qui était évident. Et après, le fait, au plus vous déléguez, au plus vous vous associez, et vous n'êtes pas obligé de salarier quelqu'un d'emblée, au plus vous pouvez vous développer sur ce qui vous plaît et sur le développement. Et donc, au plus vous faites du chiffre. Faut pas rentrer dans ces calculs où je vais devoir payer quelqu'un, j'ai peur. Non, dès lors que vous payez quelqu'un, vous faites beaucoup plus de chiffres d'affaires. Oui. Donc,
c'est vrai que de créer une entreprise, ça implique d'être comptable, communicant, juriste. Donc, des fois, d'être à plusieurs, ça permet de chacun être sur ses compétences, les bonnes compétences en tout cas.
Exactement. Ouais. Et puis, dans les réseaux d'entrepreneurs, vous arrivez facilement à vous échanger des services. Et du coup, vous avez de belles amitiés qui se créent, l'air de rien, et bien au-delà de ce qu'on croit. Donc, c'est quelque chose que je recommande aussi pour ne pas marcher seul.
Et justement, quel type de compétences faut-il pour faire votre métier d'accompagner des personnes dans leurs projets professionnels ?
Compétence numéro 1, faut le vouloir.
Faut aimer ça.
Faut aimer ça. Compétence numéro 2, il faut une forte capacité d'analyse de la personne. Donc, il faut des compétences en psychologie, ça, c'est indéniable. Il faut capter les enjeux que la personne n'ose pas mentionner ou elle-même n'a pas identifié. Ou qui ne sont pas dits en tant que tels. Donc, il faut vraiment capter les enjeux pour la personne et arriver à la recadrer. C'est-à-dire qu'il faut orienter un maximum ses questions. On n'est pas dans un cabinet de psy, même si. Donc, on va constamment recadrer, dire « Oui, mais là, si vous faisiez ça, quel objectif vous fixeriez avec ça ?» quel serait l'impact sur votre vie personnelle ?« Ah oui, d'accord, vous voulez faire telle école, mais êtes-vous mobile ?» Est-ce qu'elle propose une session à distance? Mais ça, il ne faut pas se leurrer, les gens ne se posent pas la question.
Donc... Et puis c'est des fois difficile d'avoir conscience, en fait,
exactement.
De tout ce que ça a comme impact.
Et le consultant, il apporte le sens des réalités, il apporte des ressources objectives. D'ailleurs, mon logo, c'est deux visages qui se croisent. Et c'est l'objectivité et la subjectivité. Moi, le bénéficiaire me donne la matière. Et je la sculpte, je la module, et j'essaie de lui donner ensuite les ressources, parce que la question du projet, les 50% de la question, c'est comment. Je ne peux pas proposer, supposons à quelqu'un qui ait 2000 euros de crédit de maison, je ne peux pas lui dire, super, on va le faire en alternance, génial.
Oui,
non, on va faire une conférence des grandes écoles, une semaine tous les 3 mois, Comme ça, on arrive à avoir quelque chose de beau sur le CV, le même résultat, mais non, on ne fait pas l'alternance quand on est mère célibataire avec 5 gosses et qu'on a, on est surendetté. Bien non, sûr. Ça ne marche pas. Donc voilà, on adapte le comment en fonction de la situation perso, en fait. Donc ça, c'est du conseil, c'est des ressources, et c'est des ressources que moi, j'apporte par mes connaissances.
Ouais, il y a aussi beaucoup de connaissances derrière.
Il faut.
C'est ça.
Il faut. Et il y a une connaissance terrain. Parce c'est que dans le, quand je vous dis « je ne fais que ce que j'ai voulu faire », il y a eu énormément de recherches en amont. Je veux dire, moi, quand je recherche un emploi, je suis debout à 6 heures. et j'étais dans le métro, puisque j'ai passé 10 ans à Paris, et je suis dans le métro à 7, en train de courir en talons aiguilles, et j'ai mes dossiers, et je sais ce que je veux, et je sais comment je vais l'avoir. Donc, le comment, il est très important.
Bien
et
sûr.
Moi, c'est ce qui m'a permis de tout avoir. Donc, il y a aussi une bonne connaissance terrain.
Eh bien, parfait. On va continuer à parler des compétences, des bilans de compétences, et aussi comment ça peut accompagner un porteur de projet, un créateur d'entreprise, juste après cette petite pause.
Vous écoutez Envie d'entreprendre, votre rendez-vous avec l'économie locale animé par Marie-Cécile Drécourt.
De retour dans Envie d'entreprendre avec Cécile Piron-Jordan de Parcours RH. Donc on a parlé de votre parcours, de votre création d'entreprise, de ce que c'était un bilan de compétences. Vous accompagnez donc à la fois des salariés, effectivement, et des porteurs de projets, des individuels, vous m'avez dit tout à l'heure. Si je souhaite créer mon entreprise, est-ce que c'est important ou en tout cas très utile de faire un bilan de compétences ?
Alors, forcément, je vais vous répondre oui.
Je vais pas dire autre chose. Mais pourquoi ?
Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, encore une fois, on en revient. Est-ce que c'est une facilité que j'ai ? Là, j'ai une dame, c'est le cas en ce moment, parce que depuis des siècles et des siècles amène, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et pour moi, c'est une évidence parce que j'ai tous les outils en main. Ou est-ce que je le fais par opposition à, consciemment ou inconsciemment, je ne supporte plus la hiérarchie. Dans ce cas-là, attention.
Ça arrive souvent, ça.
Il faut interroger l'environnement professionnel en priorité. Après, on voit. Après, c'est, ah oui, j'ai envie de faire autorité. OK, mais j'ai pas envie d'apporter quelque chose de nouveau. OK, donc là, on va voir, est-ce que j'ai un profil cadre ? Donc, puisque j'ai envie de décider.
Bien sûr.
Ou est-ce que j'ai vraiment envie de décider ? D'abord pour moi-même et après d'offrir, parce que c'est offrir, créer une entreprise. Dans ce cas-là, on va voir le profil entrepreneur et quel type d'entrepreneur je suis. Il y a un autre cas, alors je préviens beaucoup les gens sur l'auto-entreprise, j'invite les gens à garder un revenu de fonds, à faire les choses progressivement. J'ai une activité secondaire, allez, on en prend une qui me plaît, je suis souffleur de verre. Bim.
Ah,
je dis pas moi, hein, mais supposons, voilà. Je commence à vendre, le seuil c'est 2 000 €. Ok, bah, qu'est-ce que je fais ? Bah, je travaille le samedi matin ou les week-ends, je vends sur les marchés. Ok, je me déclare en auto-entreprise, oui. Oui, mais je garde mon revenu. Et puis, au plus ça prend de la place, au plus je vais essayer de négocier un jour, une demi-journée, un jour ou deux dans la semaine, répartir mes horaires. Les gens oublient souvent qu'avec le patron ou le M plus 1, c'est une relation gagnant-gagnant. On commence par penser cette capacité de négociation parce qu'elle va être là avec le prospect aussi. C'est trouver la marge de manœuvre.
Ouais, et puis cette nouvelle expérience va apporter quelque chose aussi dans la vie de salarié.
Exactement. Donc, il faut quand même se poser la question de quel est mon mode relationnel, comment j'agis au sein du travail et quelles sont les vraies raisons, les vraies, pour lesquelles je veux me lancer. Et est-ce que je suis prêt ou prête à travailler plus, mais en adaptant mes horaires. Moi, je suis beaucoup moins fatiguée depuis que je suis entrepreneur. Pourtant, j'arrête à 2 h du mat. Vous pourriez demander à Laetitia Béel, avec qui on fait des ingénieries de bilan.
Vous faites des réunions entre 1 h et 2 h du matin.
Alors non, mais jusqu'à 10 h du soir, on est encore en train de faire des choses à distance. Par contre, je vois mes enfants à midi, je les vois à 5 h. Des fois, je vais juste les voir une demi-heure, je les pose. Et je repars jusqu'à 21h, 21h30, parce que quand j'accueille un commerçant, le bilan, il commence à 19h30.
Bien sûr.
Voilà, donc à 19h, 19h30.
C'est vrai que d'être entrepreneur, ça m'a permis de m'adapter à mon rythme biologique aussi.
Exactement. Voilà. Et puis, ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous aimez faire et puis de l'apporter à votre façon. Dans l'entreprise, on vous interdit souvent de faire à votre façon. Et ça, c'est terrible. Les gens, ils sont coupés d'une partie d'eux-mêmes et surtout de leur autonomie. Et ils ne sont pas traités en adultes. Ce n'est pas qu'ils ne se sentent pas, c'est qu'ils ne le sont pas.
Bien sûr.
Voilà. Donc aujourd'hui, on fait des postes adaptables, des choses comme ça. On peut se diriger vers ça, mais c'est rarissime. C'est 1%.
Ça va venir. L'entreprise évolue également.
Oui, oui. Je fais du recrutement aussi. Donc, c'est des choses que je conseille aux entreprises. Mais... comme on dit dans le Sud, ils ne sont pas chauds. Hein.
Donc, ça va venir, ça va venir.
Voilà.
Donc, ça veut dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur.
Non, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Par contre, ça, c'est ma croyance à moi. Je trouve que c'est une très bonne chose que de plus en plus de gens se dirigent vers la prise en main d'une entreprise. Parce qu'apporter un bout de soi sur le service qu'on rend à la société, je trouve ça terriblement humain. Et une des premières raisons à invoquer, comme je le disais au début... les gens ont envie de bienveillance, mais ils ne sont pas tant en attente qu'ils ont envie de la donner. Donc c'est une belle chose, en fait. Et c'est laisser faire naturellement les choses. C'est un peu l'anarchie, hein, telle que vue en Suisse, ou la démocratie directe. C'est tout s'imbrique. Il faut juste laisser faire. Et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Donc, par conviction, j'y invite volontiers, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ne suis pas du tout, je suis très organisée.
C'est là où on a besoin de vous.
Voilà, c'est là où on a besoin de moi. Et puis, ben, oui, il y a forcément du conseil en entreprise. Et comme toute personne, je ne sais pas tout, je sais pas mal de choses. Ça fait partie de ma formation en évolution professionnelle. Mais j'ai la moindre question. Je suis entourée de conseillers en créa d'entreprise. Pur et dur aussi, je vais poser la question et après je redirige selon la volonté de la personne vers un service gratuit ou vers un service payant si elle veut quelque chose de beaucoup plus optimisé.
De très pointu, ouais.
Voilà.
Oui, ça c'est certain. Et puis c'est pas parce qu'on crée une entreprise et qu'après peut-être on l'arrête que c'est un échec, c'est aussi une étape dans son parcours.
C'est une étape dans son parcours. Mais en général, l'échec, on le voit vite arriver, voire avant la créa. Donc c'est pour ça qu'on fait attention. Parce que encore une fois, l'échec peut être précarisant. Donc, je fais quand même très, très attention à qui je lance là-dessus. Ça, c'est un de mes points forts, je crois. Voilà. J'essaie au maximum que les gens... de réduire le facteur d'échec au maximum et de ne pas me tromper là-dessus.
Et un accompagnement avec vous, ça dure combien de temps ?
Alors, un accompagnement avec moi, c'est plutôt ça dure combien d'heures et combien d'heures vous allez bosser chez vous ? Et là, aïe, ça fait mal.
Ah, vous donnez des devoirs.
Je donne plein de devoirs. D'ailleurs, il y a des parents qui reviennent en me disant « Mon fils m'a dit, t'as pas fait tes devoirs ou tu les fais encore dernière minute,
c'est pas bien ?» Ils doivent se faire plaisir, les enfants.
Ah oui, ils se font plaisir avec ça. Non, mais il y a des recherches, il y a des enquêtes terrain avec les demandeurs d'emploi. Il y a des stages PMSP, vous savez, de découverte en entreprise. Ouais. Alors, j'ai peu de demandeurs d'emploi. Mais parce que Pôle emploi a un marché actif projet, donc mais bon, malheureusement, je récupère les gens après. Donc c'est un peu dommage parce que c'est un peu rapide un actif projet, même si c'est très bienveillant, c'est super, mais voilà. Donc les gens peuvent aller en entreprise et c'est là où on va se rendre compte de la réalité du terrain. En général, une fois qu'on a fait le pas d'aller faire un stage en entreprise, on ne s'est pas trompé, mais c'est le petit métier d'à côté qui va plaire.
Oui, parce qu'on n'a pas toujours conscience, en fait, un métier, on a une vision d'un certain métier, mais on ne sait pas exactement ce que ça donne au jour le jour, ce que ça implique.
Ouais.
Moi, à une époque, les ressources humaines, ça me plaisait. Et puis au final, quand j'ai vu exactement ce que c'était le métier, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui me plaisait vraiment. Mais on n'a pas toujours conscience, ce n'est pas évident, en fait, de savoir ce que fait chaque personne dans chaque métier.
Ouais. Et pour reprendre votre exemple, c'est vrai qu'au début, j'étais choquée. Je voyais rentrer dans mon bureau alors des femmes avec 80% un complexe d'imposteur, mais des femmes qui rentraient, qui me disaient « Ah, moi, je veux être responsable ressources humaines. Deuxième option, moi, je veux être décoratrice d'intérieur. » Ok, super. Donc là, on regarde le marché. La première question que je pose à une personne qui veut être responsable des ressources humaines, c'est « Demain, vous faites une restructuration ou un licenciement collectif, comment vous vous sentez ? » Parce qu'il ne faut pas se leurrer.
C'est ça.
Voilà. Et donc, du coup, est-ce que vous vous rendez compte que vous allez envoyer des courriers à des gens que vous avez croisés à la machine à café, mais dans la période d'envoi du courrier, 2-3 semaines avant, il va falloir arrêter de leur parler, peut-être pour vous protéger, etc., etc. Il ne va pas falloir faire trop de bruit avec les talons sur la moquette, voire passer par la porte de derrière. Comment vous vous sentez ? Et là, bim, on n'a plus personne dans les ressources humaines. Décorateur d'intérieur dans le Vaucluse, ça veut dire quoi ? On passe par une école de menuiserie. Et pour finir, cuisiniste, ou finalement réorienter, j'ai un ami comme ça, il ne fait que des cercueils, parce qu'il voulait être décorateur d'intérieur, donc il a fait l'école du Thor, menuiserie, déco, et il me dit, les cercueils, c'est lucratif, et je ne donne pas à manger. Avec... Voilà, donc réfléchir.
Oui, bien sûr.
Il faut vraiment réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a des choses... Oh là là, c'est attirant. C'est vrai que les gens du Sud entretiennent bien leur maison. Ils ont de très jolis intérieurs. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire décorateur.
Bien sûr. Ouais. Donc voilà, si on arrive déjà à la fin de cette émission. Mais ce que j'ai entendu pendant tous nos échanges, c'est vraiment de se faire accompagner. Alors, soit par vous, soit par d'autres structures, puisqu'il y a des structures qui accompagnent les porteurs de projets, les créateurs d'entreprises. Si on veut échanger avec vous, continuer à parler de ça et peut-être se faire accompagner, comment on peut vous retrouver ?
Alors, vous allez sur LinkedIn, vous tapez parcours RH et vous contactez Cécile, que vous venez d'entendre, ou Sébastien, mon associé, qui est très intéressé par les parcours des gens aussi.
Donc, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ou en tout cas LinkedIn ?
LinkedIn, ça marche très bien. Mais honnêtement, c'est le bouche à oreille qui marche.
Qui marche bien.
J'ai même refusé de faire du marketing parce que, en fait, j'avais trop de clients. Donc...
C'est très bien.
C'est très bien. Donc là, il va falloir s'associer un peu plus. Mais du coup, oui, message privé... Et puis voilà.
Ça prouve bien que quand on fait un métier qui nous plaît, on se débrouille et on arrive à développer son entreprise.
Exactement, puis on le fait bien. Quand voilà. Ça nous plaît, on Exactement. Le fait bien, on va au fond des choses et ça, c'est important.
Eh bien, merci beaucoup, Cécile, pour ces échanges et à très bientôt pour une nouvelle émission qui vous donnera envie d'entreprendre.